Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Amis sportifs, bienvenue et excellente année 2024 à tous et à toutes. Pour cette première émission de 2024, je suis exceptionnellement très très heureux d'être avec vous en lieu et place de notre ami Philippe Carnu qui est encore en vacances, qu'on salue d'ailleurs. Philippe qui sera de retour dès lundi prochain. Au cours de son Mon Paris Sport, on vous dira tout sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dès ce samedi 13 janvier du côté de la Côte d'Ivoire. Avec nos différents invités et intervenants, nous dresserons un véritable inventaire des 24 équipes engagées dans la compétition. Le football hexagonal sera également de la partie puisque notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport reviendra dans son intervention hebdomadaire sur les principaux résultats des 32e de finale de Coupe de France et sur le nouveau trophée des champions. Et puis on va mettre aussi pas mal de musique hein, parce que tout simplement la CAN reste un événement aussi festif. Tiens, on va commencer d'ailleurs avec une réalisation de notre ami Léo ainsi que Jason Lindor. On va commencer avec l'hymne de la CAN à l'instant même sur Mon Paris FM. Bienvenue.
Get this one.
Eh oui, vous êtes bien sur Mon Paris FM, dans Mon Paris Sport. Bienvenue dans l'édition spéciale de Mon Paris Sport, votre rendez-vous incontournable pour une immersion profonde dans le monde du football. Dans cette émission, nous allons plonger dans l'univers captivant de la CAN 2023 avec un focus sur les groupes et les équipes qui façonnent donc cette compétition. Avec moi ce soir, j'ai deux invités. Je vais commencer par le plus jeune. Salut Ryan, comment ça va ?
Ça va bien, ça va et toi ?
Bien, la forme ?
Ça va. Merci.
Amateur de foot, supporter du PSG.
Exactement, c'est ça.
Mais aussi supporter du football africain.
Exactement, c'est ça.
En face de toi, j'ai Amadou. Salut Amadou.
Voilà, salut.
Bien, la forme ou pas ?
Ouais, toujours la forme.
Hein. Bah écoute, ouais, toi aussi, un grand amateur de foot et puis amoureux de l'Afrique aussi.
Ouais,
donc ça tombe bien aujourd'hui, hein, t'es dans Mon Paris Sport. On va essentiellement, en tout cas dans les 80% de cette émission, évoquer la CAN 2023, 34e édition du nom qui commence dès ce samedi du côté de la Côte d'Ivoire. On va d'ores et déjà, les amis, évoquer les poules. Hein. On a jusqu'à 3, 4, 5, on a 6 poules pour autant de matchs, 52 matchs, hein, si j'ai bien compté. Les amis, groupe A, on a le pays organisateur, donc la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et Guinée-Bissau.
Ouais, groupe relevé.
Qu'est-ce que ce groupe vous évoque, Amadou ?
Bah, groupe relevé, on va voir ce que la Côte d'Ivoire va faire chez lui, hein, domicile. Là, il aura tout à prouver là, devant des équipes pas faciles à jouer, parce que la Guinée équatoriale, qui a terminé au quart de finale à la dernière CAN, éliminée par le Sénégal d'ailleurs. Donc il faudra faire attention. Moi, je pense que la Guinée-Bissau sera peut-être le petit poussé du groupe, mais bon, en Afrique, tout est possible.
Hein.
Tout le monde se donne à fond, tout le monde s'entraîne pareil. Voilà, groupe relevé. Et il reste le Nigeria. Bon, le Nigeria qui a beaucoup d'attaquants, beaucoup de bons joueurs, mais après, reste à savoir si c'est une équipe.
Le Nigeria qui a perdu match amical.
Contre la Guinée,
ce week-end, déjà 2-0.
Ouais.
Est-ce que ça augure déjà de certaines réalités de ce qui va se passer lors de cette CAN ? Est-ce que le Nigeria est en forme, tout simplement ?
Bah, le Nigeria, ça reste à prouver. Bon, ils ont un bon vivier, hein, on les connaît, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de vraiment plus des attaquants, c'est plus offensif. Derrière, on connaît moins. Peut-être que ça ne joue pas dans les grands championnats. Donc, le Nigeria, c'est vrai que je suis un peu dubitatif là, par rapport à cette CAN. Mais bon, tout est possible. On sait qu'à la dernière CAN, ils avaient gagné tous leurs matchs de poule. Et après, ils s'étaient fait éliminer par la Tunisie,
malheureusement.
Donc...
Ryan,
ouais.
Le groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, ouais. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau.
Groupe intéressant.
Ça t'évoque quoi ?
Un groupe compliqué.
Compliqué, tu trouves ?
Un peu quand même.
Ouais.
Avec la Côte d'Ivoire qui est annoncée comme grande favori de la compétition.
Ça, c'est toi qui le dis, hein, Ryan.
Beaucoup de gens le disent
aussi. On va préciser que tu es d'origine ivoirienne. Hein.
Aussi.
Ouais, donc c'est aussi pour ça que tu dis ça.
Beaucoup de gens le disent quand même.
Ouais.
Nigeria est une équipe très très intéressante, surtout dans le secteur offensif. Avec des joueurs monstrueux devant. Voilà, là on a vu qu'ils ont perdu contre la Guinée. Après, le résultat ne reflète pas ce qui va se passer lors de la CAN. La CAN, c'est différent des matchs amicaux. Et la Guinée équatoriale, qui à la précédente CAN, si je me rappelle, avait battu l'Algérie. Donc une équipe difficile à jouer, une équipe piège. Et la Guinée-Bissau, qui a aussi battu cette même équipe du Nigeria qui est dans notre groupe. Donc un groupe intéressant.
Très, très, très intéressant. Et puis, on a notre ami Chris, justement, qui vient de nous rejoindre et qui va s'habiller à travers le casque, justement. Mon cher Chris, tout de suite, au pied levé, on évoquait justement le groupe A avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et effectivement Guinée-Bissau. Qu'est-ce que cette poule A t'évoque, justement ?
Pour moi, c'est une belle poule, surtout avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire.
Dans le micro, s'il te plaît. Ouais.
Oui, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devront confirmer parce qu'ils sont chez eux. Et le Nigeria a une belle attaque. Et ça sera des beaux matchs pour cette CAN.
Alors pour vous, qui sort de cette poule ? Sachant qu'il y a un potentiel troisième qui peut jouer les barrages. Hein.
Amadou. Évidemment, j'irai la Côte d'Ivoire devant son public. Donc la Côte d'Ivoire qui a des gros joueurs aussi à tous les postes. Bon, une équipe, ça sera développé pendant la compétition. Bon, la Côte d'Ivoire, j'irai à la première place, normalement. Après, pour la deuxième place, quand même, je vois une petite surprise avec la Guinée équatoriale. Et après, le Nigeria, peut-être au forceps, en prenant des points, qui finit meilleur troisième. Mais c'est à voir.
Pour toi, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale.
Guinée équatoriale.
Et pour toi, Ryan?
Logiquement, Côte d'Ivoire-Nigeria.
Les deux, pour les deux toi, c'est Côte d'Ivoire-Nigéria.
Logiquement. Mm-hmm. Et je vois bien en troisième la Guinée équatoriale, qui est une équipe intéressante.
Et pourquoi tu dis ça, justement, Guinée-Nigéria? Parce qu'on a évoqué la défense au niveau du Nigeria, c'est pas trop ça. Ouais. C'est vrai qu'en attaque, ça carbure, notamment avec Osimhen, mais derrière, on n'a plus le Nigéria d'antan. C'est vrai qu'on peut rester peut-être sur l'histoire. Mais le Nigeria d'aujourd'hui, est-ce qu'il fait aussi peur que le Nigeria anciennement?
C'est vrai que le Nigeria aujourd'hui en Afrique, en termes de défense, c'est pas une référence, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas une équipe qui se prend 3-4 buts par match. Donc là, je pense que le Nigeria, c'est une équipe intéressante, vraiment.
Mmh. Ouais. Ok, on va continuer les amis à dérouler justement cette poule. On va profiter aussi pour prendre l'avis de notre ami Chris. Hein. Chris, au niveau donc du groupe A, qui tu vois sortir justement? Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau.
La Côte d'Ivoire. Mmh. La Côte d'Ivoire, avec l'aide des arbitres, on peut dire.
Oh, déjà. Non mais c'est vrai que si le pays organisateur, dès l'entame des poules déjà, a besoin de l'arbitrage, c'est que c'est grave. Sachant que l'équipe a quand même un potentiel, hein, les amis. On est d'accord?
Oui, on est d'accord. Il y a un potentiel, mais oui, je les vois bien sortir, oui.
Avec qui?
Pour moi, avec le Niger, les deux Guinées. Après l'Équateur en troisième, ouais, mais les
donc
deux.
Toi, tu vois les choses un peu comme Ryan, hein.
Oui.
Côte d'Ivoire, Nigeria.
Voilà. Hein. Ouais.
Amadou, lui, il a plutôt tablé sur Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale. Ouais. Hein. On va suivre ça de très 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 près, les amis. On va à présent arriver dans le groupe B avec l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique.
Oui. Amadou. Bon, ça va, c'est un groupe qui est, enfin, moins relevé peut-être que le premier qu'on a cité. Mais
Égypte-Ghana, c'est quand même costaud. Hein.
Ouais,
est-ce que l'Égypte-Ghana, c'est pas l'équivalent de Côte d'Ivoire-Nigéria et Cap-Vert-Mozambique, l'équivalent de Guinée-Équateur, les deux Guinées?
Sûrement. Après, l'Égypte, quand même, on les connaît, Grande Afrique, cette victoire dans la compétition. Mm-hmm. Je pense qu'ils sont revanchards par rapport à la dernière CAN qu'ils ont perdue au tir au but.
Bon, face au Sénégal.
Ouais, ils sont, voilà. Ils ont pas fait une bonne CAN chez eux. L'avant-dernière CAN où ils ont fait éliminer par l'Afrique du Sud, mais la CAN 2017, ils étaient en finale, pareil. Ils ont l'habitude de cette compétition. Je pense, enfin moi, je les vois quand même parmi les favoris. Et même par rapport à Mohamed Salah, qui potentiellement, on sait pas, hein, ça n'a rien à voir, mais à la fin de la saison, il peut pour le Ballon d'Or. Donc il voudra prouver devant tous les Égyptiens.
Le ballon d'or africain ou le ballon d'or
le ballon
d'or FIFA, là.
Je dirais les deux, mais même le ballon d'or FIFA, parce qu'il fait une grosse saison aussi à Liverpool. Mm-hmm. Donc je pense qu'il aura quand même la CAN aussi
Liverpool est bien positionné pour gagner.
Ils peuvent peut-être.
Il y a un bémol quand même, hein, au niveau de Liverpool, c'est que Liverpool joue pas cette année la Ligue des Champions. Liverpool est plutôt en Europa League, donc je vais dire, ça peut être aussi quelque chose de, ça peut être un bémol pour lui.
Après, on a déjà vu des joueurs qui jouaient dans des équipes qui ont juste gagné l'Europa League et peut-être un gros trophée international et bien finir sur le podium. Mm-hmm. Donc je pense par exemple Griezmann avec la France qui avait gagné l'Europa League avec l'Atlético, bon au final ils avaient gagné la Coupe du Monde. Là, peut-être que ça peut. À mon avis, c'est quand même dans un coin de sa tête.
Mmh. Et le Ghana.
Alors le Ghana, bon, le Ghana, il y a un joueur qui sera vraiment aussi à suivre. Je pense c'est Mohamed Kudus, que je suis depuis quelques temps. C'est un super, je pense, c'est futur Ballon d'Or africain, ce joueur-là. Bon, il y a les frères Ayou encore qui sont encore là.
Plutôt Jordan, parce qu'Ayou, André, c'est il est plutôt sur la fin. Hein.
Ouais. Le Ghana, je le vois main fort, mais bon, après, bon, il y a Inaki, c'est le non pas Inaki, c'est Inaki Williams qui est là. Bon, ils ont une belle attaque, je pense qu'ils ont une équipe qui est assez, j'ai oublié le mot, mais. Je pense qu'à tous leurs postes, ça va, ils ont des bons joueurs.
Assez équilibré, tu veux dire.
Assez équilibré,
homogène,
voilà, j'ai cherché le mot. Bon, je les vois quand même arriver deuxième de ce groupe-là.
L'Égypte, hein, après, donc pour toi, c'est l'Égypte en tête.
Pour moi, ouais, je pense que
l'Égypte
en tête. Peut-être un peu dans la douleur parce qu'ils ont l'habitude de ça, mais je pense l'Égypte suivie du Ghana.
Est-ce que le Mozambique, le Cap-Vert sont pas aussi méconnus, mais tout aussi performants, Chris?
Oui, c'est ça. Là, Mozambique et Cap-Vert, pour moi, ils peuvent faire la surprise plus face au Ghana. L'Égypte, comme a dit Amadou, l'Égypte, ils sont rodés, ils sont chauds. Mais je pense qu'eux, ils peuvent faire une belle surprise. Voilà, essayer le match nul face au Ghana et peut-être un but en fin de match. Mais ouais, Cap-Vert, Mozambique, il faudra faire attention. Plus par rapport aux deux autres Guinées, pour moi, enfin, c'est mon avis, ouais. Mais Cap-Vert et Mozambique, je dirais plus le Cap-Vert parce que pour eux, ça a été vraiment un élan national, cette qualification. Et ce sont des équipes.
Pour toi, ils peuvent être poussés dans leur lancée, l'euphorie, voilà. Ambiante peut leur donner encore un supplément d'âme dans ce groupe B. Ryan, pareil, hein. Le Ghana, tu y crois, toi ? Est-ce que le Ghana a la même équipe que...
C'est plus Ghana d'il y a quelques années, ça, c'est, oui. C'est clair. Mais après, c'est une équipe qui a quand même des bons joueurs. Mm-hmm. Thomas Partey, Mohamed Kudus.
Partey, je crois qu'il n'est pas là, non ?
Ah, Partey, ouais, il me semble qu'il est encore blessé.
Il est
blessé,
ouais,
je pense qu'il va pas jouer la compétition.
Je crois qu'il est blessé.
Il n'y a que Williams, il y a les deux frères Ayou. Bon, même s'ils sont sur la fin, il y a quand même Jordan.
Non, mais surtout André.
André qui est
Jordan
est toujours là, ouais.
Mais André, c'est vrai qu'il fait partie des 27 sélectionnés, mais... Il n'a pas joué depuis combien de temps, André ? Je l'ai vu, je rentrais
au Havre,
il a joué à peine 5 minutes.
Après, André...
je ne sais pas s'il est en jambe.
André, au pays, quand il joue avec le Ghana, c'est très, très, très fort. Ce n'est pas le même en club.
Bon, on verra bien. Hein. Donc, pour toi, tu vois
l'Égypte première,
oui,
et le Ghana deuxième.
Attention, il y a un meilleur troisième, hein. Cap-Vert, Mozambique.
Je ne suis pas trop ces deux équipes, donc...
Tu vois qui Égypte aussi et Ghana dans l'ordre.
Égypte en premier et après le Ghana peut nous faire peur. Ouais.
Vous êtes resté sur le palmarès sauf que aussi à la forme du moment.
Oui,
le talent du moment.
C'est plus ils peuvent finir troisième le Ghana pour moi sur cette CAN. Ouais.
Ben, oui, Amadou.
Si moi je vais dire un mot, le Cap-Vert faudra quand même faire attention parce que bon, c'est comme ils ont quand même des bons joueurs. Ils ont terminé en huitième de finale à la dernière CAN. Ils se sont fait éliminer par le Sénégal justement. Mm-hmm. Donc ils commencent petit à petit à prendre leur marque dans la compétition. Donc ouais, attention quand même au Cap-Vert. Et des fois aussi, c'est vrai que j'ai l'impression que dans l'équipe, il n'y a pas des joueurs qui jouent dans des gros clubs. Mais des fois, quand ils jouent peut-être dans des clubs moins huppés, on dirait que quand ils arrivent à la CAN, ils ont plus d'énergie quoi, que d'autres joueurs qui jouent dans des gros matchs, dans des gros clubs. Quoi.
Ouais, c'est ça. Hein, quand on joue pour son pays, il y a comme un supplément d'âme comme ça qui arrive. Et c'est pour ça que des équipes comme la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Cap-Vert et tout ça sont capables justement d'être de véritables troupes faites, hein, les amis. Hein.
Tout à fait.
Donc à suivre ça de très très près. Le groupe C à présent avec le détenteur du titre, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Moi, je pense que dans cette poule, il y aura une grosse surprise. C'est le pressentiment que j'ai, Amadou.
Je suis entièrement d'accord. Bon, je dirais, bon, tout objectivement, attention, même si c'est mon préféré. Enfin, pour moi, le Sénégal a la meilleure équipe.
On va préciser qu'Amadou est supporter du Sénégal.
Non, mais en toute objectivité, bon, je dirais que si on se dit, pour moi, c'est la meilleure équipe même dans tout, parce que à tous les postes, ils ont des joueurs. C'est les tenants du titre. J'ai bien dit la meilleure équipe. Après, les favoris, ça reste quand même la Côte d'Ivoire chez lui. Et bien sûr, le Maroc, on en reparlera tout à l'heure. Mais dans ce groupe-là, je dirais, bon, où le Sénégal aura un peu quand même de difficultés parce que ça reste quand même le groupe de la mort, comme on dit. Mm-hmm. Ensuite, par contre, là, malheureusement, je pense que nos amis Lyon-Camerounais, j'ai l'impression qu'ils vont. Je les sens pas trop pour cette compétition.
Tu les sens pas du tout.
Je vais pas dire je sens pas du tout, mais.
Mais le Cameroun, c'est toujours la bête blessée, en fait.
Je suis tout à fait d'accord. Comme j'entendais un youtubeur qui disait, eux, ils peuvent trouver 20 Camerounais dans la rue, ils les prennent, ils gagnent la CAN.
On a l'impression que cette équipe, ouais. Ryan, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ouais. Cette équipe n'a pas forcément besoin à chaque fois d'avoir des Samuel Eto'o. Mais ça reste toujours prêt dans les grandes compétitions, dans les grands rendez-vous, Ryan.
C'est ça. Non, pour moi, c'est le groupe le plus relevé de cette CAN 2024.
Sénégal, Cameroun, Guinée.
Ouais, c'est le groupe le plus relevé avec le tenant du titre, le Sénégal. Je pense qu'on n'aura pas de mal à sortir de ce groupe. Et c'est plus vers la deuxième, troisième place que ça va jouer avec la Guinée, qui a Siro Guirassy, qui fait un superbe début de saison avec Stuttgart. Et le Cameroun, comme tu as dit, bête blessée, hein, c'est-à-dire que pas besoin d'avoir de superstars pour pour aller loin dans cette Coupe d'Afrique qu'ils ont remportée 5 fois, si je ne me trompe pas. Et la Gambie, qui est une équipe très, très difficile à jouer, même si pour moi, ça va être l'équipe la... Ça va être la moins favorite du groupe, mais avec des joueurs de qualité comme Moussa Barrow qui joue en Europe depuis quelques années.
Chris, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie.
Alors là, c'est le groupe du tenant en titre, comme on l'a dit. Mm-hmm. Et
le
je pense que les autres voudront aussi prouver. Donc ça va être aussi un piège pour les Sénégalais. Et il y aura un beau match entre Sénégal et Cameroun, les deux lions.
Ouais, c'est aussi parce que c'est deux peuples frontaliers. Hein. C'est des frères, hein.
Non, c'est Sénégal-Cameroun.
Sénégal-Gambie, je veux dire.
Oui, oui, oui. Gambie, ouais. Ouais. Je voulais parler des deux lions. Les
Camerounais et les Sénégalais.
Les Sénégalais. Ouais. Là, je veux dire plutôt malheur aux vaincus parce que...
Après, tout dépend aussi. Hein. Ces deux équipes se rencontrent à quel moment ? Parce que si, effectivement, c'est au niveau du troisième match que chacune des deux équipes a deux victoires.
C'est au deuxième, il me semble.
Je crois que c'est au deuxième, tout à fait. Donc, ça peut effectivement bouleverser un peu la donne, hein.
Exactement. Donc,
moi, je pense que dans ce groupe, il y aura une grosse surprise. Je ne sais pas.
Moi, je suis...
J'ai l'impression qu'une équipe comme la Gambie risque de faire beaucoup de mal au Cameroun et au Sénégal.
Et au Sénégal.
Je ne sais pas, ouais. je le ressens comme ça. On va saluer notre ami Cheikh Enza face au micro, Cheikh. Alors, groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Tu vois qui comme favori et pourquoi ?
Bon, moi, à mon avis, je pense que le Sénégal, vraiment, je vois le Sénégal à Guinée passer. Parce que déjà, au niveau de Cameroun...
Sénégal et Guinée ?
Oui, je pense que la Guinée, vraiment, avec Kaba Diawara, depuis un certain temps, l'équipe monte en puissance. Et c'est une nouvelle génération qui fait confiance. Donc, je pense que... Et ces dernières années, on a eu tendance à voir des équipes qui ont mis en difficulté les tenants du titre, les gens des ténors d'Afrique, quoi. Genre les grandes équipes, disons le Cameroun, l'Égypte, qui ont été le plus souvent en difficulté face à des petites équipes. Donc, je pense que la Guinée, vraiment, peut nous sortir une surprise de ce groupe. Je les vois vraiment, pourquoi pas aller au second tour. Puisqu'avec le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui face au Nigeria, je ne les voyais pas vraiment battre le Nigeria, avec tous les joueurs comme Osimhen et toute une grande équipe du Nigeria qui était en difficulté.
Justement, est-ce que le Nigeria n'a pas joué avec le frein à main aussi, sachant que c'est un match amical et tout ça?
Le plus souvent, là déjà, on est déjà dans le but du sujet, parce que la CAN, ça se prépare depuis la préparation, parce que c'est une compétition qui dure pas longtemps. Et le plus souvent, la CAN, c'est pas les meilleures équipes qui gagnent, c'est les équipes qui ont le meilleur état d'esprit, les équipes qui sont mieux préparées. Parce qu'on a eu le cas en 2012, une équipe de Zambie qui est sortie de nulle part, qui vient gagner le trophée, face à une équipe de Côte d'Ivoire avec une pléiade des stars. Donc, du coup, ce genre d'équipe-là, c'est l'équipe qui est mieux préparée, qui est mieux préparée psychologiquement, qui est dans les meilleures conditions, c'est ce genre d'équipe qui gagne la CAN. Parce qu'en 2022, on ne voyait pas vraiment le Sénégal aller la chercher, parce qu'ils venaient d'un échec. Donc, mais là, ils sont allés la chercher. Donc, moi, je vois une équipe de Guinée, avec Kaba Diawara, vraiment, qui a un dispositif, qui a tout à sa disposition, vraiment, pour faire une meilleure CAN. Par contre, le Cameroun, ces dernières années, je pense qu'à la Coupe du Monde, on n'a pas vu un grand Cameroun. Là, dans les éliminatoires, ça a été moins. Même si vraiment, c'est une équipe qui connaît bien la compétition, qui connaît bien la CAN. Mais par moment, là, je ne vois pas une équipe du Cameroun vraiment aller loin dans cette compétition. Sincèrement, dans ce groupe, moi, je parie vraiment pour le Sénégal et la Guinée. Et la Gambie peut faire une surprise, mais le Cameroun... Mais je ne le vois pas vraiment faire une grande compétition.
En tout cas, c'est ton avis. Hein. Chris, le Sénégal, t'as la foi, toi. C'est vrai que c'est le détenteur du trophée, mais est-ce que, justement, il n'y aura pas une forme de pression sur le Sénégal, étant donné que le Sénégal est le dernier vainqueur de cette CAN?
La pression, ils vont...
Tu penses qu'ils vont la gérer?
Oui, voilà, parce qu'ils ont des joueurs d'expérience qui jouent dans des beaux clubs en Europe. Et ouais, l'ossature du Sénégal, elle est bonne. Mais je pense qu'ils vont savoir gérer la pression. Mais après, il faudra faire attention au match piège face au Cameroun, pour moi.
On va continuer justement sur Mon Paris Sport avec nos amis Chris, Amadou, Ryan, Cheikh Enza ici présent. On va dans quelques instants aborder le groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Encore là, un groupe très, 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 très relevé. Mais juste avant, on va transiter par juste un peu de musique et on revient juste après. Bougez pas, 19h26 sur Mon Paris FM. Bienvenue sur Bon Paris FM, seconde partie dans cette émission. On plonge justement dans l'univers de la CAN 2023 avec un focus sur les différents groupes. Juste avant Michael Jackson, on s'était arrêté, les amis, hein, sur le groupe D avec donc l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. On va commencer avec Amadou. Ouais. Qui sont tes favoris justement pour ce groupe D?
Bon, ce groupe-là, je pense que bon, l'Algérie qui sera bon, revanchard sur la compétition. Hein,
c'est bien la revanche, mais est-ce qu'il y a les mêmes joueurs? Ils sont tous quasiment en Arabie Saoudite. Est-ce que le niveau est le même?
Au final, il y a quand même un petit niveau en Arabie Saoudite. Enfin, un niveau que je pense qu'il a dû augmenter avec tous les transferts des joueurs là, qui sont venus du côté de tous les grands championnats. Mm-hmm. Bon, et en même temps, c'est plus qu'un maintien en forme, quoi. Il y a quand même de la compétition. Et bon, on connaît les Algériens qui sont à fond, qui ont vraiment l'amour du maillot, qui auront à cœur d'enlever l'affront de la dernière CAN. Donc, je vais pas dire obligatoirement que je vois finir obligatoirement premier du groupe, mais en tout cas, je pense qu'ils se qualifient à la première ou à la deuxième place. Parce qu'on a, Burkina Faso en face. Les étalons, ils sont tenaces, ils tiennent toujours.
Difficile à jouer.
Demi-finaliste, il me semble, de la dernière Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas. Ils sont perdus contre le Sénégal. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop me mouiller par rapport à la place. Et je sais que l'Algérie et le Burkina, ils ont déjà joué des éliminatoires et aucun des deux a gagné. Quoi. Je sais qu'une fois, ils avaient fait match nul sur les deux côtés. Après, les deux équipes qui restent, c'est Angola, on a dit Angola.
Angola et Mauritanie.
Après Angola et Mauritanie, bon, je pense que ceux-là, je les vois dans les deux autres places. Je ne suis pas sûr, avec tout le respect que j'ai pour eux, je ne suis pas sûr qu'il y ait un des deux qui finira dans les meilleurs troisièmes.
Mais j'ai vu la Tunisie en Tunisie faire 0-0 face à la Mauritanie. Hein. Ce week-end, c'était pas un match fameux, mais les Tunisiens n'ont pas réussi non plus à battre la Mauritanie. Ouais. Alors que sur le papier, ça semble être une formalité.
Ouais, après, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits accros dans les matchs. C'est dans un match amical, oui, il peut y avoir des petits accros. Bon.
Donc pour toi, qui sort de cette poule? Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola.
Algérie, Burkina. Bon, on peut y aller.
On enregistre l'émission, les amis. On va sortir les bonnes après.
Je vais mouiller. Allez, admettons, je vais dire Burkina Faso en premier, Algérie en deuxième.
Ah, quand même.
Bah, le Burkina, ils sont costauds.
Donc mais, Burkina, Algérie.
Ouais, mais l'Algérie, en tout cas, par rapport au reste de la compétition, enfin, je sais que je vais un peu loin. L'Algérie, comme je les vois cette année faire aussi une grosse CAN. Mm-hmm. Mais là, bon, je les vois arriver deuxième. Mm-hmm. Mais arriver deuxième ne veut pas dire ne pas aller loin.
À suivre. Ryan, moi, je mets une pièce sur l'Angola. Et toi?
Non, moi, ça va se jouer entre la première place entre l'Algérie et le Burkina. Mm-hmm. Burkina, très, très solide. Ces quatre dernières éditions de la CAN, si je ne me trompe pas, c'est deux demi-finales. En 2017 et en 2022, éliminé par le Sénégal. Donc ça va jouer entre eux deux. Après, il y a l'Algérie qui revient un peu revancharde, éliminée en phase de poule de la dernière CAN, éliminée par la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc à voir. Et je pense quand même que l'Angola est un peu plus au-dessus que de la Mauritanie. Donc je pense qu'il y a quand même qu'on finir devant la Mauritanie.
Potentiellement meilleur troisième, quoi, Angola.
Exactement.
Check.
Ouais, ben, moi je vois l'Algérie pour premier, hein, parce que normalement l'Algérie et le Burkina, c'est deux équipes qui ont pour habitude de se confronter lors des matchs, mais je pense que ça va plus jouer, parce que l'Algérie, ils sont déjà sur une continuité avec Jamel Belmadi, qui pratique un beau football et tout, et qui connaît aussi son groupe, même s'il a intégré quelques jeunes, mais c'est déjà un entraîneur déjà qui connaît bien la CAN, ça aussi ça joue beaucoup, parce qu'il faut connaître bien la CAN, parce que c'est une compétition qui est assez délicate. C'est une compétition que par moment on peut mal la débuter, mais au fur et à mesure on monte en puissance. Même en 2019, ils gagnent le trophée, mais au début, l'Algérie n'ont pas un football flamboyant, mais ils ont été décisifs, même face au Nigeria. Donc ils connaissent bien la compétition. Je pense qu'ils vraiment ils peuvent être en mesure de sortir son équipe de ce groupe-là. Je mettrai le Burkina en deuxième position. Et pourquoi pas l'Angola, vraiment, oui, parce que c'est une équipe qui est déjà habituée. La Mauritanie, c'est un peu un autre contexte. Même si là, ils ont fait quelques bons matchs amicaux, des bons éliminatoires, une bonne préparation, mais ça serait un peu difficile pour eux, parce que là, je pense que le niveau de cette CAN, c'est beaucoup plus élevé. Parce que toutes les grandes équipes sont là, donc du coup, ouais, pour le sud de la compétition, je ne les vois pas. Même s'ils sortiraient de cette poule, pour le sud de la compétition, ça serait un peu difficile pour eux de s'en sortir.
Mm-hmm. Chris, groupe D, Algérie, oui. Burkina, Mauritanie, Angola.
Oui, comme les autres, moi je vois l'Algérie et le Burkina se qualifier. Et je mettrai l'Algérie première de ce groupe, et après suivi du Burkina. Et après pour la Mauritanie et l'Angola, oui, ça c'est oui. plutôt par rapport à l'expérience de la compétition, mm-hmm. ça va être délicat, sauf si eux, voilà, ils jouent le 0-0 à fond et ils sont là ouais, pour mettre le bus devant les cages et essayer de faire une contre-attaque. Mais sinon, ouais, je vois vraiment l'Algérie et le Burkina Faso se qualifier.
L'Angola, trouble faite, non, ça vous parle pas ça, les amis?
Bah, l'Angola, ils sont pas ridicules. Après, c'est vrai que sur les derniers, je sais pas s'ils étaient qualifiés à la dernière édition.
J'ai pas souvenir, mais je sais que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer aussi. Hein. Ça marque pas forcément beaucoup de buts, mais il faut vraiment charbonner pour aller les battre. Hein.
Oui, ça défend beaucoup en Angola. Ils ont cette attitude de défendre
et
beaucoup.
Ça joue en équipe.
Oui, il y a aussi, ils ont un bloc bas et par moment aussi, ils sont très bons en contre-attaque. Ça aussi, ça peut être un atout, mais bah, ça dépend de l'équipe adverse. Par moment, quand vous jouez un bloc bas et vous avez affaire vraiment à une équipe qui joue au ballon, c'est un peu difficile. Parce que déjà, oui, pour maîtriser son match, il faut gagner le milieu de terrain. Vraiment, même quand on veut défendre, il faut avoir une attitude, vraiment un impact au milieu de terrain. Et le plus souvent, les équipes qui n'ont pas cet impact, même quand ils défendent, ils subissent. Plus tu subis, tu t'exposes. Et même s'il y a le compte déjà pour te relancer, mais tu peux pas subir un match 90 minutes et essayer de le gagner. Donc, ça serait un peu difficile. Pour l'Angola, vraiment, ils pourront chercher des résultats. Vu que le mieux troisième, c'est susceptible qu'il soit qualifié. Donc, il peut faire des résultats. Mais aller chercher la première place, ça serait difficile. Parce que là, le peuple Djamel Bamadi, il a attendu le peuple algérien. Minimum, il faut un minimum, au moins une demi-finale. Sinon, là, il est sur la sélect. Parce que même s'il a gagné la CAN, après, le football, ça va vite. C'est un sport qui est ingrat. Donc, on a besoin de résultats.
Le groupe E, à présent, les amis, avec la Tunisie. Tiens, le Mali. Tunisiens et Maliens se retrouvent très régulièrement dans les compétitions au niveau de l'Afrique. L'Afrique du Sud et la Namibie. Ryan.
Je vois le Mali premier.
Tu vois le Mali premier?
Ouais, ils sont très très intéressants.
Devant la Tunisie.
Devant la Tunisie, ouais.
Ouais.
Je les vois très très très.
Les Sud-Africains, non?
Non, plus le Mali, moi. Très très intéressant avec l'arrivée de leur nouveau coach Patrick Schell, si je ne me trompe pas.
Eric Schell.
Ouais. Eric Schell, ok. Qui fait un travail superbe avec eux. C'est une nouvelle équipe du Mali là qu'on voit et je les vois faire une très très belle compétition. Tunisie derrière, c'est solide toujours.
Mais ça marque pas beaucoup de buts hein, les
Tunisiens.
Après,
il n'y a pas besoin de marquer beaucoup de buts pour
ça marque même pas, j'ai envie de dire. Hein. Même quand ça gagne, c'est au tir au but, c'est des 1-0, un peu à l'arrache.
Mais ils vont quand même loin dans les compétitions, dans les Coupes d'Afrique. Et ils se qualifient souvent en Coupe du Monde, donc non, c'est une équipe solide, la Tunisie. Après l'Afrique du Sud, on a vu, ils ont tenu en échec la Côte d'Ivoire, donc c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Mais je pense que ça va être juste pour accrocher les deux premières places de ce groupe.
Chekenza ?
Oui, le Mali, vraiment, il y a beaucoup d'attentes parce que cette équipe, depuis pas mal d'années, nous sort vraiment de très bons joueurs. Mais comme je dis, je ne veux pas me répéter, mais la CAN, c'est une autre compétition.
C'est particulier.
Hein. Oui, la CAN, c'est une autre compétition. C'est pas vraiment. Déjà, il va falloir l'état des formes des joueurs. Parce que le plus souvent, il y a des joueurs qui viennent qui sont acculés, qui sont fatigués, qui sont déjà cuits. Ça aussi, ça compte beaucoup. Le plus souvent, on a vu que des équipes qui étaient plus fraîches, elles arrivaient à donner du bon football. Ça aussi, ça compte. Mais je vois un Mali vraiment, je ne le vois pas, je le vois au minimum demi-finale. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau du groupe. Parce qu'ils ont les qualités
Oula,
vraiment pour y
si
arriver.
Si le Mali en demi-finale, tu mets où? L'Algérie, le Sénégal, ben le moi, Cameroun, la Côte d'Ivoire.
Je vois pas l'Algérie en demi-finale.
Ça promet, hein.
Non, je vois pas l'Algérie en demi-finale.
Le Nigeria, le Maroc, tiens, le Maroc.
Ben,
tu
lui,
les mets où tout cela?
C'est une canne, quoi, comme on le dit le plus souvent. Mais chacun a son pronostic. Moi, je crois vraiment au potentiel de cette équipe du Mali qu'à l'équipe d'Algérie. Moi, je crois au potentiel de cette équipe du Mali qu'à l'équipe du Cameroun. Parce que c'est une nouvelle génération et ils ont pas mal d'expérience. Quand on regarde le groupe, il y a CEDEC qui ont fait la CAN 2017, d'autres ont fait la CAN 2019, d'autres ont fait la CAN 2022. Donc au fur et à mesure, ils gagnent en expérience et ils savent aussi gérer les bouts de match. C'est important en fait. Parce que la CAN, c'est une compétition, on se doit d'être concentré du début à la fin. Et le plus souvent, ce n'est pas l'équipe qui débute bien la CAN qui la gagne. On a vu des équipes qui ont eu des débuts vraiment un peu mitigés, mais qui sont allés chercher le trophée. En fait, le plus important, ça serait les phases d'élimination directe. Quelle équipe sera vraiment la plus fraîche pour donner au moins le mieux de soi, c'est ça le plus
Donc
important.
En fait, ce que tu dis est tellement vrai, ça veut dire qu'il va falloir gagner tout de suite ces deux premiers matchs hein,
et reposer
pour pouvoir
le coup,
pour éventuellement y... faire un peu tourner. Mon cher Chris, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie dans le groupe E. Tu vois qui sortir justement de cette poule?
Alors, je vois bien l'Algérie et l'Afrique du Sud sortir. Ouais.
La Tunisie et l'Afrique du Sud plutôt.
Et l'Afrique du Sud.
Ouais.
Mais moi je vois pas une équipe d'Afrique du Sud là, parce que sincèrement c'est pas des. Là on te parle d'une compétition. L'Afrique du Sud ces dernières années vraiment, il y a pas un leader parce que le plus souvent.
Mais ça joue en équipe. Hein.
Oui c'est oui. Ça. Justement, c'est
en plus ils ont un football oura comme ça qui peut déstabiliser l'adversaire. Hein.
Ouais,
ils jouent en équipe, plus, voilà, ils se prennent pas la tête comme tu dis, ils n'ont pas de stars. Donc ils comptent sur eux-mêmes, ils comptent sur le collectif.
Ça, c'est
je pense
vrai.
Que ça peut jouer. On n'a pas Osimhen devant, on n'a pas de Sadio Mané. Hein. On joue en équipe, on défend la patrie. Amadou.
Oui, bah moi dans ce groupe-là, bon, c'est vrai que comme disait Ryan, il me semble, ouais, c'est vrai que la Tunisie, souvent on les voit dans le dernier carré. Eux, c'est les Italiens d'Afrique, quoi. Eux, ils vous tiennent pendant 98 minutes, ça dépend du match. Au dernier moment, ils vous mettent un but avec les Msakni. Enfin, voilà. En même temps, après, c'est vrai que ce groupe, c'est
on a vu, hein, même durant cette Coupe du Monde, la France
a perdu.
J'avais dit ça à un ami, j'avais dit que la Tunisie va faire un coup, en plus, hein, pour l'anecdote. Et dans ce groupe, bon, c'est vrai qu'il est compliqué aussi, parce que même l'Afrique du Sud, récemment, il me semble qu'ils ont battu le Maroc aussi. Hein. Il me semble que dans les éliminatoires, il n'y a pas longtemps. Hein, on va se renseigner en régie.
Ouais.
Après, on a dit la Tunisie, le Mali. Bon, le Mali, je pense que si le Mali a beaucoup de choses à prouver. Donc, ils vont.
Belle génération, le Mali. Hein.
Oui, belle génération. Ouais. Je sais qu'il y a Bissouma. Il y a beaucoup de Camara, je ne sais plus. Parce qu'il y en a un qui
joue à
Clermont.
Il y en a aussi qui joue à Monaco. Ouais. Une belle génération avec Jamal Diouf.
Il y a Bayo, il me semble. Il y a Bayo.
Mohamed Bayo,
ouais. C'est vrai.
Je ne sais pas s'il a été convoqué.
Amari et tout ça.
Mais Amari, en tant que capitaine, ils ont une belle génération, que ce soit au niveau de la défense et tout ça. Après aussi, bon, comme le dit Eric Schell, il fait un beau travail. Mais quand on regarde comment le Mali va pas à la CAN, à la Coupe du Monde 2022, il y a un problème. C'est pourquoi je dis que il va falloir gérer aussi
face à la Tunisie, justement.
Oui, face à la Tunisie.
Le fameux CSC.
Oui, face à la Tunisie, le Mali, sur les deux matchs, il n'y a pas photo. C'est la meilleure équipe. Mais par inexpérience, il y a des erreurs qui peuvent arriver. Et pourtant, à la CAN, c'est des choses qui se payent très cher. Une erreur, c'est fini. Tu perds la Coupe. Donc, t'es même plus dans les calculs. Donc, soit il va falloir donner le maximum aux deux premiers matchs et éviter les calculs comme les gens le font, les calculs arabes. Le premier match, on joue pas à fond. Non, ça, il faut l'éviter. Parce que les deux derniers CAN, on a vu que c'était des CAN qui étaient relevés. Toutes les équipes, ils sont venus pour gagner. Maintenant, il n'y a pas des équipes figurantes comme on pouvait le voir dans les années passées. Mais là, maintenant, toutes les équipes, elles se donnent les moyens de la gagner. Donc.
Et la Namibie dans tout ça?
Malheureusement,
méconnu mais qualifié tout de même. Ouais. Les amis, ils sont pas là par hasard.
Non, moi je les vois pas faire grand chose dans cette CAN.
Tu les vois pas?
Non, pas du tout.
Mais toi non plus, Chris?
Non, avec dans ce groupe là, non.
Meilleur troisième, je pense pas non plus.
Alors, info de dernière minute, hein, l'ex-capitaine allemand est décédé aujourd'hui, hein, Franz Beckenbauer, justement.
Le Kaiser.
Le Kaiser, le leader de cette défense de l'équipe d'Allemagne de ces années-là, est parti aujourd'hui même à l'âge de 78 ans. On poursuit, les amis, en groupe F cette fois-ci, avec le Maroc, le Congo, la Zambie et la Tanzanie. Des équipes quasi méconnues, hein, notamment Zambie, Tanzanie, tout ça, mais qualifiées tout de même, comme je disais, hein, avec en tête le Maroc, naturellement. Que vous inspire cette poule encore, Ryan?
Maroc, pour moi, c'est le favori de cette compétition. Premier pays africain ici à se hisser en demi-finale d'une Coupe du Monde. Même mis à part leur beau parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'est une équipe solide. Très complémentaire avec des bons joueurs à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu et en attaque. Donc non, je les vois sortir de ce groupe premier sans souci.
Le Congo, la Zambie, la Tanzanie?
Je vois plus moi la Zambie finir deuxième. Parce que le Congo, on connaît, c'est pas très fameux dans les résultats, footballistiquement parlant. Après, J'espère qu'ils vont nous surprendre cette
année. Qu'est-ce qu'il va te tuer, hein.
Je pars une attaque, là.
Moi, j'ai deux bras.
C'est pas les Kinshasa.
Il y a en 2015, vous étiez pas mal, le Congo. Ils ont fini en demi-finale de la CAN avec Joe Mercier Mbokani et toute cette équipe. Mais voilà, après ça, on a plus rien vu en vrai. Donc, le Congo, non, ça me dit rien. Et c'est qui que tu m'as dit, qui est dans le groupe?
La Zambie, Tanzanie.
Ouais, moi, je vois plus la Zambie qui a récemment, il y a quelques mois, battu la Côte d'Ivoire 3-0. Et je les ai joués, franchement, ils sont intéressants devant, ça va très très vite. Et c'est un peu comme l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité et qui arrive à déstabiliser des défenses.
En plus, c'est des équipes qui évoluent en altitude, hein, ouais. Donc oui, au niveau cardio, tout ça.
Ouais, ils ont des équipes très athlétiques, très athlétiques.
Ils auront un temps d'avance, sachant que sur place, en ce moment, du côté de la Côte d'Ivoire, on a des températures qui tournent autour de 30-32 degrés. Hein, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il a beaucoup plu du côté d'Abidjan, notamment. Chris, la poule D, toujours la poule F, pardon. Maroc, RDC, Zambie, Tanzanie.
Ah oui, pour moi, le Maroc est un des favoris pour la compétition. Et après, en deuxième, je mets le Congo.
RDC ?
Oui, la RDC.
Maroc, RDC ? Tu vois la RDC devant la Zambie ?
Oui, parce que... Oui,
parce que t'es congolais ?
De Braza.
C'est pareil.
Non, mais quand je vois l'état d'esprit, oui, avec... Oui, par exemple, comme Chancel Mbemba qui prend un peu plus de l'assurance et du leadership, je sens que le groupe va faire quelque chose de bien. Après, voilà, ce sont mes favoris pour ce groupe, mais ouais, je les vois bien se qualifier.
Amadou ?
Bah moi, je vais me mouiller un peu. Bon, après, bon, comme disaient mes très chers collègues, le Maroc, bon, qui est favori. Bon, même si je dirais que je le mettrais troisième, mais qui est favori par rapport à sa dernière Coupe du Monde. Maintenant, il a tout approuvé. Il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique depuis 1976. Après, c'est sûr que quand on joue en Afrique, c'est pas pareil qu'à l'international. Bon, je le vois sortir de ce groupe, mais il y aura quand même un gros derby belge, là, j'ai entendu, là, entre le Maroc et le Congo.
Le RDC.
Tu sais qu'entre les deux, ils ont déjà commencé les hostilités. Donc, je vois même ce match-là comme la finale de ce groupe. Même si, bon, la Zambie, c'est sûr que je pense que la Zambie progresse petit à petit. Hein. Même, il me semble que même leur pays, je pense qu'il y a des belles infrastructures, j'entendais, ou je confonds avec.
Oui, la Zambie, ça va.
Zimbabwe, ouais.
La Zambie, ça progresse. Hein, ça continue de travailler, justement, depuis. Le sacre de 2012.
Ouais. Non, je dirais que la finale se jouera entre le Maroc et la RDC de ce groupe, et je vois peut-être la Zambie en meilleur troisième. Et le dernier, bon, après, là, malheureusement, nos frères tanzaniens, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour eux, mais... Mm-hmm.
Bon. Chakenza ?
Ouais, je vois le Maroc favori de ce groupe, mais pas favori de la CAN. Parce que le plus souvent, les favoris ne gagnent pas la CAN. Mm. Ça, c'est une anecdote, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. On a mis combien de fois la Côte d'Ivoire favori, mais au final, il n'y a pas eu de titre. En 2015, ils n'étaient pas partis favoris, mais ils nous ont sorti la meilleure CAN possible.
L'Égypte honore ses engagements en général aussi.
Oui, mais en fait.
Tu mets l'Égypte favori, l'Égypte gagne souvent.
L'Égypte, il honore. L'Égypte, il honore. En 2017, l'Égypte était favorite, ils n'ont pas gagné. En 2022, pareil, ils avaient vraiment une belle équipe, ils n'ont pas gagné. Donc, ce qui veut dire qu'à la CAN, c'est hors conteste. Il n'y a pas de logique, en fait. Il n'y a pas de logique. La meilleure préparation, c'est ce qui détermine le vainqueur. Parce que là, il y a des équipes, même en 2017, personne ne voit le Cameroun aller chercher ce trophée. Ils sont allés le chercher. Enfin, c'est une équipe d'Égypte vraiment qui était en place. Voilà,
avec une défaite, hein, lors du premier match.
Ouais, donc,
si mes souvenirs
ouais,
sont
donc bons, tu t'imagines, ouais. C'est ce que je disais, au fait. Là, je vois le Maroc favori de ce groupe, mais pas favori de la CAN. Parce que les favoris, ça commence... Bon, pour moi, le favori, ça se détermine à partir des phases d'élimination directe. Parce que là, on commence à avoir une équipe qui se détache vraiment au niveau du mental et tout. Ça, c'est mon avis perso. Après analyse, parce qu'il y a plein d'équipes qui ont été favorites, mais qui n'ont jamais gagné au final.
Il y en a aussi qui ont été favorites et qui ont gagné.
Oui, bien sûr.
En Algérie, en 2019. Dès les phases de poule, en vrai, on les annonçait comme favoris.
On les annonçait comme favoris, mais la finale face au Sénégal, ils n'ont pas été meilleurs que les Sénégalais. Dans tous les compartiments de jeu, ça, on le sait.
Ils ont gagné.
Dans la compétition, en tout cas, c'était les meilleurs, en tout cas. C'était la meilleure équipe.
Oui, mais en finale, ils n'ont pas été meilleurs dans les compartiments de jeu. En fait, un match, c'est ce que j'ai dit, parce qu'ils avaient le mental, ils étaient mieux préparés. C'est pourquoi, vraiment, ils nous ont sorti vraiment cette belle compétition. Mais après, quand on a, en 2022, on a mis l'Algérie favori, qu'est-ce que ça nous a donné? Ils sont sortis de maille de poule. Donc, tu vois, donc il faut, à un moment donné, il faut être réaliste. Il ne faut pas vraiment déjà se précipiter pour dire non, mettre la charrue avant les bœufs. que le Maroc est favori. C'est pas les mêmes contextes déjà, c'est pas les mêmes équipes. En Afrique, vraiment, on a un football qui est totalement différent de l'Europe. Il y a des équipes qui jouent très très groupées en Afrique, et il y a des équipes pour lesquelles le résultat est important, ils veulent pas perdre. Donc tu vois, donc c'est pas la même chose. Déjà, ils peuvent être favoris de ce groupe, mais favoris de la CAN, moi je pense que c'est un peu trop quoi. Donc il faut laisser la compétition déjà se débuter et voir ce que ça va donner.
Une compétition justement qui arrive hein, dès ce samedi 13 janvier avec la cérémonie d'ouverture et puis un certain Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ça va se jouer du côté donc du stade d'Ibempe en Abidjan, en banlieue d'Abidjan justement. Les amis, à présent j'ai quelques questions pour vous. Quelles équipes vous impressionnent le plus dans cette CAN justement? On a évoqué les différents groupes. Si vous devez chacun sortir deux équipes, tout groupe confondu, Ryan.
Moi, ça sera le Maroc.
Oui.
Pour moi, c'est ceux qui jouent le mieux, en tout cas au ballon. Mm-hmm. Défensivement aussi, c'est très, très, très solide. Et tactiquement aussi, c'est au-dessus pour moi des autres équipes africaines. Et comme je l'ai dit, le Mali, qui pour moi, offensivement, c'est monstrueux ce qu'ils font.
Donc, Ryan, Maroc.
C'est les équipes qui m'impressionnent le plus.
Oui, mais non, mais c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Donc, Mali, tu as dit Mali et Maroc.
Ouais, c'est ça.
Chakenza.
Moi, je mettrais, par contre, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que déjà, il y a le public.
C'est vos finales potentielles hein, que vous évoquez comme
moi,
ça.
Moi, je mettrais le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi déjà le public? Et vraiment, on est une nouvelle génération. Et puis, vraiment, ces derniers temps, on a vu vraiment un gars, c'est vraiment qui osait, qui avait un peu de l'audace dans ses choix. Déjà, qui arrivait par moment à mettre Aurier sur le banc, qui arrivait par moment à mettre certains cadres sur le banc. Et il a même refusé d'appeler Gervinho. Donc, on a senti un entraîneur vraiment qui, voilà, même Ufisa qui n'a pas été appelé. Ça, c'est très rare. Donc, déjà, c'est qui priorise le groupe, qui met la priorité sur le groupe. Donc, moi, je vois vraiment une équipe de Côte d'Ivoire. Côté Sénégal, je vois une équipe avec l'expérience. Alou Cissé, vraiment, qui a déjà joué deux finales et tout, qui connaît un peu la compétition. Lui-même, il a joué une finale en tant que joueur. Donc, il connaît un peu, donc je pense qu'il allait jouer aussi pour la gagner. Pourquoi pas récidiver et gagner une deuxième sac. Donc, moi, pour moi, mon choix, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Chris ?
Pour moi, ça va être le Maroc et le Sénégal, parce que bon, ce sont les deux équipes africaines les plus en jeu.
Maroc-Sénégal ?
Oui.
Oh là là, ça a de la gueule, ça. Hein.
Oui, parce que oui, le Maroc, par rapport à son parcours en Coupe du Monde, et le Sénégal, parce que ce sont les tenants du titre. Donc, ouais, ce sont deux équipes que je suivrai attentivement.
Amadou ?
Bah, c'est vrai que bon, je vais être obligé de regarder le Sénégal. Bon, je dirais quand même le Sénégal parce qu'en plus, il s'est beaucoup renouvelé déjà qu'ils avaient quand même une grosse équipe, tout objectivement parlant, bien sûr. En plus, je sens qu'ils ont un mental et ils sont tous. C'est vrai qu'ils sont tous derrière leur meneur, Sadio Mané. Je pense que je vois quand même impressionnant. Bon, il y a un manque de réalisme encore, mais bon, je vois quand même, comme je dis, favori. Et la Côte d'Ivoire, bien sûr, chez elle. La Côte d'Ivoire qui a eu un gros vivier, beaucoup de très bons joueurs. Bon, après, à voir au fil du temps si c'est aussi vraiment une équipe, parce qu'après, c'est ça aussi qui compte. En tout cas, ils ont énormément de très gros joueurs dans leur équipe, ouais, comme disait mon collègue. Ils ont pu se passer de Wilfried Zaha. C'est que voilà quoi.
À présent, quels sont les joueurs justement que vous allez qui pourront ressortir de cette CAN? Des joueurs à surveiller.
Moi,
deux, si chacun devait en citer deux, Ryan. Deux joueurs à surveiller durant cette CAN.
Riyad Mahrez.
Oui.
Parti du côté de l'Arabie Saoudite.
Oui.
J'ai envie de voir moi ce que ça donne. Maintenant, s'il a perdu du niveau ou si voilà, il va tenir son rang de superstar au sein de l'équipe d'Algérie. Et après, ouais, moi, c'est que Riyad Mahrez que je veux vraiment voir. Mais moi, vraiment, c'est vraiment l'équipe que je veux voir, moi.
C'est plutôt l'équipe. Ouais, hein.
C'est vraiment les équipes.
T'as pas de joueurs, non. Osimhen.
Non, la CAN, c'est quoi? C'est une compétition collective. En vrai, moi, je veux vraiment voir les équipes en vrai.
Mm-hmm. Chakenza, ouais. Si t'as deux joueurs, justement.
Mais deux joueurs, moi, je mettrais en premier Osimhen, vraiment, suite à sa dernière saison. Et là, vraiment, avec une équipe du Nigeria, vraiment, qui est au top. Parce que ça peut arriver, certes, ils ont eu quelques blessés au niveau de Ndidi, mais je vois Osimhen déjà. S'il est dans le bon tempo, le collectif vraiment se met à sa disposition. Peut nous souhaiter une belle CAN. Je vois aussi un Yves Bissouma aussi rayonner du côté du Mali parce que là-bas, il est le maître du jeu. Donc, je mettrai vraiment ces deux joueurs.
Osimhen, Bissouma.
Osimhen, Yves Bissouma.
Chris ?
Alors, moi, je vais choisir deux gardiens. Onana, parce que par rapport à ce qu'il vit à Manchester.
S'il arrive.
Voilà. Bon, le premier match, pour le premier match, c'est pas sûr qu'il joue. Mais après, voilà, si, déjà, s'il joue aussi, j'aimerais aussi bien, voilà, parce que par rapport à ses performances à Manchester, et aussi Bono, aussi, voir...
le gardien marocain.
Voilà, le, Bono, son évolution, parce que voilà, c'est un gardien que j'apprécie, j'aime beaucoup, ouais, voir.
Amadou ?
Enfin, moi, franchement, il y a pléthore de joueurs que j'aimerais bien...
on va en citer deux.
Que je voudrais suivre. Bon, je dirais, bon, on va dire Ilmane Ndiaye quand même, parce qu'il vit une période, enfin une saison compliquée avec l'Olympique de Marseille, et pourtant on sait qu'il est bourré de talent. Donc déjà, lui, et le deuxième, moi je dirais Mohamed Kudus, parce que je sens que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'Afrique, ce joueur est extrêmement fort. J'attends de voir où est-ce qu'il va faire avec le Ghana, bien sûr, et de ses coéquipiers.
Mm-hmm. À présent, les amis, la question qui arrive, hein, quels sont les matchs que vous attendez, mais vraiment avec impatience, les matchs de poule, on s'entend. Hein. Quelle affiche, justement, au niveau des poules?
Côte d'Ivoire-Nigéria.
Toi, tu attends le Côte d'Ivoire-Nigéria.
J'ai envie de voir ce
que
ça va
faire.
Et toi, Côte d'Ivoire-Nigéria, parce que
dans le micro, s'il te plaît.
Je veux voir cette équipe de Côte d'Ivoire face au Nigeria, vraiment. Mm-hmm. Je vois vraiment le plan de jeu de Gassé. Et je veux voir aussi les joueurs qui
vont. Mais quand on sait que cette opposition arrive, je crois, en troisième.
C'est le deuxième match.
C'est le deuxième ?
Le deuxième match,
ouais. C'est le deuxième match ?
Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça peut valoir son pesant d'or, hein, effectivement. Ouais. En deuxième match, effectivement, aucune des deux équipes ne serait déjà qualifiée.
Oui.
Donc, effectivement, ça peut être quelque chose de très costaud. Donc, toi, c'est
Côte d'Ivoire-Nigéria.
Chris ?
Sénégal-Cameroun.
Le Sénégal-Cameroun. Hein. Je sais qu'Amadou, c'est pareil.
Ouais, bah ouais, je pense que voir le combat des lions là, pour savoir à qui va appartenir la tanière. C'est là, ouais, j'attends avec impatience parce que bon, serait comme disait mon collègue, comme le Sénégal a du mal en général contre le Cameroun, là ça sera le moment de limite de les éliminer. Hein. C'est pour ça que c'est comme j'ai dit, je sens pas le Cameroun malheureusement. Hein. Enfin désolé pour mes amis camerounais hein, que j'adore. Mais ouais, j'attends ce match avec impatience pour voir ce qu'on va donner.
Mais le plus souvent en Afrique, la logique elle est respectée. Donc plus souvent, oui, des équipes que tu n'as jamais battues, tu ne les bats jamais. Soit tu sais un match nul, mais la victoire, c'est
ouais,
rare.
Le signe comme indien.
Comme la Côte d'Ivoire, le Mali. Le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire.
Ça arrivera un jour, je pense. Je pense
mais c'est pas maintenant, frère. Là, vraiment, depuis les années, les années post-indépendance, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais battu. Le Cameroun avec le Sénégal, ça a été pareil. Ils sont fait sortir deux fois face à une équipe de Cameroun qui était moyenne face à eux. Donc, après, c'est psychologique aussi, une équipe qui t'a jamais battu. Donc, quand ils arrivent, vraiment, ils arrivent aussi. Oui, par moment, les joueurs aussi, c'est ça. Dans la tête, ils disent que oui, on va affronter encore cette équipe et tout. Malgré qu'ils donnent tout, au final, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. C'est comme ça. Ouais.
Juste avant de recevoir notre ami Stéphane Desenclos, justement, du quotidien du sport, pour nous évoquer, entre autres, le 32e de finale de la Coupe de France, le trophée des champions et toute l'actualité footballistique. Justement, les amis, j'ai une dernière question pour vous. Si vous devez choisir une équipe sous-estimée ou un joueur méconnu qui pourrait éventuellement créer la surprise, ce serait qui?
Une équipe sous-estimée, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'Égypte.
Ah si, quand même.
Je ne trouve pas. Quand on me dit les favoris, j'entends le Sénégal, j'entends la Côte d'Ivoire, j'entends le Maroc, j'entends l'Algérie, j'entends pas trop l'Égypte.
Pourtant, cette fois...
cette fois couronnée.
Couronnée quand même, c'est la meilleure équipe d'Afrique hein,
ouais, pour
en
moi
termes
aussi,
de titres. Hein. Oui. Bah, c'est peut-être aussi pour ça. Hein.
Aussi, ouais.
Chakenza.
Bon, moi, je dirais...
Une équipe sous-estimée ou
une
un
équipe
joueur...
Vraiment, une équipe sous-estimée, je dirais le Ghana. Le Ghana, c'est les Allemands d'Afrique. Le plus souvent...
Mais le Ghana n'a plus de joueurs. Hein,
oui, mais ça a toujours été comme ça. Avec le Ghana, par moments, on s'est dit qu'ils n'ont pas de joueurs et tout. Mais c'est une équipe vraiment qui nous a toujours donné de beaux talents. Et c'est une équipe aussi qui joue vraiment avec le mental. Les Ghanéens, quand ils viennent, même quand ils n'ont pas la meilleure équipe, ils se donnent. C'est ce qui fait défaut aussi un peu sur les autres équipes en Afrique. Oui, par moment, je parle de la Côte d'Ivoire, par moment, oui, on a eu des joueurs vraiment qui venaient, qui ne mouillaient pas le maillot, qui se disaient que, bah oui, si on pédait. Mais au Ghana, c'est différent. Ils ont une culture de la gagne. Ça aussi, ça compte. C'est comme le Cameroun. Les pays qui ont la culture de la gagne, mais même quand ils sont moyens, ils se donnent le moyen d'arriver. C'est ça le plus important.
À suivre. Chris, une équipe sous-estimée, un joueur méconnu qui pourrait créer la surprise pour toi?
L'équipe sous-estimée, pour moi, ça reste le Congo, Kinshasa. Après, je vais les voir sortir, mais pas aller très loin. Mais on va faire une bonne canne, avec, ou bien perdre avec honneur. Pour moi, c'est le Congo, Kinshasa.
Amadou?
Sous-estimé cette année, c'est vrai que je suis d'accord aussi avec l'Égypte, parce qu'on n'en parle pas assez, mais à mon avis, ça va être costaud. On peut avoir peut-être le Ghana, comme je disais, comme j'attends de voir Mohamed Kudus, ouais, le Ghana. sinon le Ghana en plus.
Merci les amis, hein, vous restez en plateau, on va transiter par de la musique, le temps pour nous de recevoir le rédacteur en chef du quotidien du sport, notre ami Stéphane Desenclos, qui va nous donner toutes les actus foot de notre France, et puis on revient juste après, bougez surtout pas.
J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, tout est plein. Fais un, je suis pas au malé. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, mais je suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça.
Sentiments, c'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage que mon ex était chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
Retour au plateau, 20h04 sur Mon Paris FM avec nos amis Ryan, Shakenza, Amadou, Chris. Et puis nous a rejoint sur le plateau de Mon Paris Sport notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport. Salut Stéphane.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bah alors, bonsoir. Là, on va parler de foot, de l'Hexagone et même peut-être aller au-delà avec le trophée des champions mercredi 3 janvier dernier. Hein, le PSG justement a défait Toulouse. FC par 2-0, mon cher Stéphane.
Ouais, bah un match attendu, hein. Il n'y a pas eu vraiment de surprise. En plus, le Paris Saint-Germain, il faudra quand même qu'on m'explique, parce qu'en fait, on n'a pas eu vraiment d'explication sur le fait que ce match est lié au Parc des Princes.
C'est quand même c'était assez troublant, effectivement.
C'est quand même assez incroyable, quoi, qu'ils aient pas pu faire jouer ce match à Lille, par exemple. Je donne un exemple.
Non, au Stade de France, tout simplement. Ouais.
Au Stade de France, je crois qu'il... Non, mais il n'était pas disponible, le Stade de France.
Ah ouais ?
Non, il n'était pas disponible. C'est pour ça que... je sais pas. Le stade de France. En tout cas, il y a plein d'autres stades où il aurait pu se jouer. Et c'est assez hallucinant quand même de que ça se joue au Parc. Bon, enfin bon, Paris n'avait pas besoin de ça, je pense, pour gagner, mais c'était quand même un match assez intéressant. Toulouse a fait ce qui
tu l'as trouvé intéressant, toi?
Bah, c'était intéressant dans le sens où il n'y a pas eu, ça n'a pas été. Je pense qu'à aucun moment Paris était favori, bien sûr, et Paris
on
a gagné.
On aurait dit un match de préparation au début de saison.
C'était pas Revel PSG par exemple. Hein. C'était pas c'était quand même il y avait quand même un petit peu un enjeu, quoi.
Mais en tout cas, le PSG l'a gagné avec notamment Kylian Mbappé et Kang In-Lee qui ont marqué respectivement à la 3e et à la 44e minute. Hein. Les amis, réaction là-dessus sur le trophée des champions, Amadou?
Bah déjà, on voit par rapport à la date, ça aurait dû avoir lieu. Déjà, c'est longtemps après quand même, parce qu'il me semble que en général, ça c'est vers le mois d'août, ça c'est juste avant que la saison elle commence.
Oui, il était question justement d'exporter le trophée des champions, mais je crois que ça n'avait pas été fait, c'est bien ça.
Ouais, il est exporté maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il est exporté. Mais il devait avoir lieu, c'est en Thaïlande, non, je ne sais plus où il
en
devait
avoir lieu. En Thaïlande,
c'est ça. Ouais. Et puis finalement, la société de production, et puis par rapport à la situation quoi, du décès de la fille du roi de Thaïlande. Quoi, bref, ça a eu 10 explications bizarres. Et puis il a fallu qu'ils attendent 6 mois pour nous donner un trophée qui se joue début janvier, alors que les joueurs sont encore sous le sapin de Noël pratiquement au Parc des Princes. Quoi, c'est assez ridicule. C'est assez ridicule parce que partout on voit, moi j'ai lu beaucoup de critiques sur ça en disant c'est un match qui est inintéressant, dont tout le monde se fout et tout. Bah non, dans tous les pays on appelle ça la Super Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Allemagne. En Allemagne, je crois qu'elle a lieu en fin de saison, je crois que c'est en fin de saison. La Super Coupe d'Italie, je crois qu'elle vient d'avoir lieu là tout à fait récemment. Mais au moins, il y a un minimum d'intérêt là. C'est vrai que ça donne l'impression d'avoir été organisé n'importe comment, au dernier moment, là où on pouvait, là où il y avait une place. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, un peu comme un match de préparation. Quoi.
À présent, on va évoquer les 32e de finale de la Coupe de France. Il n'y a pas eu de grande surprise, hein, mon cher Stéphane.
Non, il n'y en a eu aucune. D'ailleurs, il y a un seul club de Ligue 1. Il y a eu trois clubs de Ligue 1 qui ont été éliminés. Hein, deux par d'autres clubs de Ligue 1, à savoir Metz et Lens. Le troisième, c'est Lorient par Sochaux. Donc, c'est le seul, si on veut considérer ça un peu comme une surprise, ou une surprise, mais peut-être pas non plus un exploit. C'est Sochaux qui bat Lorient, sinon la hiérarchie a été respectée quasiment partout. Les clubs se préparent de mieux en mieux. Peut-être aussi après, il y a le tirage. Bon, il y a eu des matchs, on en parlait là juste avant, là, entre Sannois-Sagracien contre Bordeaux, ça a été très... Ça jouait vraiment à rien, hein, parce que ça se joue au tir au but. Il y a eu même l'OM à Thionville, là, ils ont pu y croire jusqu'au dernier moment, les Mosellans. Donc ça, il y a eu des matchs un peu accrochés, mais finalement tout s'est fait dans le respect de la hiérarchie. Quoi.
Mais si on devait retenir quelque chose, là, on va parler du 12-0 de Lille, du 9-0 du Paris Saint-Germain et des trois tirs au but quand même de Brice Samba, qui malgré tout club perdre.
Voilà, on peut retenir, je pense, surtout quand même ce match Lens-Monaco, qui était quand même un bon match, une belle affiche et qui a été à la hauteur de l'affiche, quoi. Ça a été vraiment un bon match avec peut-être effectivement, je pense que c'est quand même très très cruel pour Lens de pas se qualifier quand même. Je pense qu'il méritait plus que Monaco de se qualifier, bien que Monaco
notamment en seconde période.
Ouais, notamment en seconde période, et ils auraient peut-être mérité avec leurs moyens. Mais bon, au passage, on peut quand même être on en avait déjà parlé dans Au bout du foot, mais on peut s'inquiéter à mon avis quand même pour Eli Wahi. C'est quand même, pour moi, ça devient quand même de plus en plus inquiétant.
Peut-être de Turc de Stéphane Desocos.
C'est un truc de fou.
Eli Wahi,
c'est un truc de fou, quoi.
Pour toi, il est pas bon?
Ah ouais, il connaît pas, il a pas de QI foot, il a pour l'instant en tout cas. Il est complètement à côté de la plaque. Et si j'en parle, c'est que je me disais dans ce match Lens-Monaco, pour moi, c'est ce qui manquait effectivement à Lens, qui était, je pense, au-dessus de Monaco dans l'agressivité, dans l'envie et tout. Mais il leur manquait un buteur. Je me disais, s'ils avaient un bon buteur.
De toute façon, ça s'est vu en Ligue des Champions, hein, aussi. Hein. Parce que même le banc n'est pas fourni. Hein. Eli Wahi, c'est vrai qu'il n'est pas super top. Mais quand tu fais rentrer
Fulgini
ou...
ouais, mais il y a moi, par exemple, il y a Wesley Saïd, par exemple.
C'est vrai qu'il est très technique, mais c'est pas un buteur.
Il y a certains supporters lensois, observateurs, qui pensent qu'il aurait quand même aussi peut-être... au moins autant sa chance, si ce n'est un peu plus. Là, ça se fait pour moi clairement.
Mais il donne moins de profondeur aussi.
Tout franquesse qu'il est, grand entraîneur, respecté, qu'on n'a pas le droit de critiquer et tout. C'est l'observation, ça se voit. Quoi. C'est le meilleur du monde.
Parce qu'il fait bien avec
oui,
peu.
Oui, non, mais d'ailleurs, il le mérite. Mais moi, si c'était d'autres. Peut-être qu'on dirait qu'il arrête un peu de s'entêter avec Eli Wahi. Peut-être qu'on dirait ça.
Bah, il a voulu. Il a été acheté relativement cher pour un club comme Lens.
Un record de
transfert. Donc, il faut lui faire confiance jusqu'au bout, j'ai envie de dire.
Mais il va falloir que ça vienne, quoi. Parce que il est jeune. Hein, c'est pas, je ne dis pas du tout non. Actuellement, il est très mauvais. Mais je ne dis pas que c'est forcément un mauvais joueur. Il est très jeune et tout. Donc, tout peut arriver. Il faut lui laisser du temps. Hein. C'est quand même pas Vitinha, mais bon, je pense qu'il est bien. Vitinha est jeune.
La
aussi.
Balle perdue.
Vitinha est jeune aussi, mais bon. Mais c'est quand même assez inquiétant, quoi. C'est quand même assez inquiétant.
Vos avis sur Eli Wahi, Ryan?
Je trouve qu'il est mal entouré, en vrai. Je trouve que ça manque cruellement de qualité au milieu de terrain, l'heure s'élance. Quant à Seko Fofana l'an passé, au milieu de terrain, tu le vends et t'achètes pas un joueur qui se rapproche de son niveau, alors je trouve que c'est un peu stupide. Je trouve que la gestion a été mauvaise, en tout cas pour le RC Lens.
Mais est-ce que tu regardes les matchs? Parce que franchement, les contrôles à 5 mètres, les hors-jeux alors qu'ils ne devraient pas être hors-jeu, les ballons où ils tapent à côté et tout, il y en a quand même plus. Tu as tout à fait raison pour le milieu de terrain, tu as tout à fait raison.
C'est juste un peu Sotoka, combatif, mais ça manque cruellement de juste technique.
Il y a Nepales Mendy aussi qui a pas le niveau de Seko Fofana. Il va falloir aussi un relayeur, un joueur qui peut casser les lignes, qui peut donner les ballons, les bons ballons dans l'espace.
C'est pas le même profil.
C'est pourquoi la cellule de recrutement est un peu, je sais pas, mais là ils ont un peu déconné. Parce que quand on veut un joueur comme Seko Fofana, avant même de le vendre.
Mais tu regardes bien dans le football mondial, Seko Fofana, il est unique. Après, je dis pas que c'est super top, mais il a une façon de jouer qui est quasiment unique. Regardez bien Seko Fofana. Il n'y a pas deux Seko Fofana, tout championnat confondu. Il a une particularité qui lui appartient. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore resté dans les championnats majeurs. Mais je veux dire, Seko Fofana, il n'y en a pas deux des Seko Fofana. Donc, dire que tu vas remplacer Seko Fofana par un profil similaire, je pense que c'est se noyer, tout simplement.
Mais pas un profil similaire, mais déjà un profil qui se rapproche plus en termes de volume de jeu au niveau de Seko Fofana.
Mais ça coûte cher.
Non,
dans ces cas-là, tu ne laisses pas partir Seko Fofana.
La cellule de recrutement du Racing Club de Lens, je pense qu'ils avaient les moyens nécessaires. Déjà, il y a pas mal de joueurs, en fait. Et puis, le problème des clubs français, je pense que c'est un peu de prendre je sais pas, ils veulent tellement prendre des joueurs un peu qui ont un passé glorieux et tout. Pourtant, il y a des jeunes joueurs vraiment qui peuvent le faire. C'est juste les mettre dans les conditions. Ben oui, c'est un peu ça.
Oui, mais ils l'ont un peu fait, par exemple, quand ils vont dépenser quasiment le record, un des records transferts avec Andy Diouf, par exemple, qu'ils vont chercher. Il était à Rennes, il avait été d'abord prêté avec option d'achat à Bâle, qui a levé l'option d'achat à la fin de la saison et qui l'a vendu tout de suite dans la foulée à Lens. Ils ont essayé quand même aussi. Alors après, ils se sont raccrochés, et puis ils avaient pris aussi Spearings à Toulouse, et puis après, non, c'est vrai, où t'as raison, c'est qu'effectivement, mais c'est pareil. Alors, Lens, moi j'ai l'impression, c'est un peu le sacro-saint. Ils ont fait deuxième l'année dernière, tout le monde en parlait comme si c'était les champions de France, la meilleure équipe, on aimerait tous qu'ils soient champions, c'est génial, ce qu'ils font et tout, c'était peut-être le cas. En l'occurrence là, effectivement, on peut se dire que pour l'instant, ils sont quand même un peu plantés au niveau du recrutement. Déjà, ils ont mis all-in sur Wahi devant, quoi, parce que comme tu le disais, il y a qui derrière? Sinon, Guy Lavoghi, moi j'ai trouvé qu'il faisait des choses intéressantes. Wesley Saïd qui revient de blessure depuis longtemps. Non, mais de toute façon, c'est pas au niveau européen. Et il n'y a pas grand chose derrière, quoi. Donc je crois que Seko Fofana leur a quand même rapporté beaucoup moins d'argent qu'on ne l'a dit. Il a été acheté 8, je crois qu'au total, ils ont récupéré peut-être 18 millions sur la vente de Fofana, qui a été vendu peut-être 25, mais avec les, les, les bonus, les remises et tout, je crois qu'ils ont récupéré moins que qu'on pouvait le penser. Mais c'est sûr qu'on pouvait s'attendre peut-être à autre chose. Bon, n'empêche qu'ils ont fait un très bon match contre Monaco et qu'ils méritaient quand même de passer.
Ouais, et toujours justement dans ce 32e de finale, on a l'Olympique de Marseille qui gagne face à Thionville, mais très difficilement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'OM, mon cher Stéphane?
Ouais, ils sont à la ramasse en ce moment.
Ben, je pense que on peut peut-être s'inquiéter un peu sur l'OM sur la saison. Peut-être, mais en tout cas, moi qui ne suis pas forcément quoi qu'il les épargne pas trop, sur ce match-là, moi je dirais non, parce que c'est un 32e de finale de Coupe de France, et la seule chose qu'il faut, c'est le gagner, quoi. Et tu joues à l'extérieur, une ambiance quand même qui, d'après ce que j'ai pas vu, le match, je ne l'ai pas vu, hein. Et donc, mais ça qui m'avait l'air un petit peu hostile, l'ambiance et tout, bon, il gagne 1-0, certes une N3, s'il domine, mais moi je pense qu'on pouvait pas s'attendre à, si peut-être un ou deux buts de plus peut-être, bon, et pareil, je n'ai pas vu le match, donc je ne sais pas comment ils se sont comportés, mais c'est vrai que ça n'empêche pas que sur l'avenir, moi je pense que Marseille va avoir beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans le top 5 cette saison, quoi.
Mais justement, Marseille, on y reste, hein. Jean Onana, nouvelle recrue visiblement, ouais, de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous le présenter? C'est qui? Il jouait où, Jean Onana? Un article qui est sur le quotidien du sport, là, justement, parlant de Jean Onana à l'OM, avec notamment Rafaela Pimenta.
Voilà. Donc, il jouait à Beşiktaş. Il est passé il y a très longtemps. Il a joué pas mal en Ligue 1. Il a joué Bordeaux. Il a dû jouer.
Il a joué à Bordeaux.
À Lille, mais pas beaucoup.
Oui. Très peu de temps.
Il est parti après. Tu connais peut-être mieux que moi. Maintenant, effectivement, l'article qui est sur le site sur cette Rafaela, c'est parce que c'est quelqu'un de méconnu, comme je le dis dans l'article au début, quoi. Personne, je pense, la connaissait ou sait qui c'est. C'était l'ancien bras droit, l'avocate pour commencer, puis l'ancien bras droit après de Mino Raiola, qui est décédé il y a donc en avril 2022, avril 2022, et donc qui a repris tout son portefeuille de joueurs, et qui a quand même des sacrés joueurs, puisque son premier entre guillemets fait d'armes a été le transfert de Erling Haaland à City. Et donc et c'est elle qui représentait Jean Onana au même titre qu'elle représente par exemple Donnarumma, Verratti, Areola par exemple aussi, ou d'autres joueurs comme ça qui sont assez connus, qui ont fait des beaux transferts. Et c'est une femme qui mérite d'être connue, donc c'est qui est avocate, qui maîtrise 8 langues, mais qu'on n'entend jamais quasiment parler, qu'on voit jamais. Donc on peut penser que c'est pas anodin son arrivée à Marseille, même s'il est en situation d'échec total au Beşiktaş en Turquie, puisqu'il était même mis à l'écart quasiment par le staff, hein.
Ouais, même Beşiktaş en ce moment met tout le monde à l'écart, c'est quand même assez curieux.
Et puis on est tous le CON de quelqu'un, donc pour moi c'est pas des critères que je compte. Maintenant, j'ai vu des commentaires de Gennaro Gattuso qui a dit qu'il l'avait étudié. Bon, maintenant ils vont tous dire le contraire, bien sûr. Pablo Longoria aussi, qu'ils avaient étudié le joueur, que c'était le joueur qu'il leur fallait, qui connaissait la Ligue 1, qui maîtrise la langue, qui a un potentiel physique qui leur fallait.
Il est milieu de terrain, on est bien d'accord.
Ouais, il est
on a Kondogbia, on a Pape Gueye, on a
Veretout,
on a le capitaine Rongier qui est blessé.
Qui est blessé, ouais.
Est-ce qu'on a besoin justement dans ce secteur de jeu d'un milieu de terrain à l'Olympique de Marseille?
Non, je pense pas. Mais
on a plutôt besoin d'un défenseur,
ouais,
je pense.
Mais il y a la Coupe d'Afrique en même temps, vu qu'il y a la Coupe d'Afrique. Ouais, après un défenseur aussi, comme Chanchel Mbemba.
Je sais pas, je pose la question.
Ouais, mais après c'est des marchés d'opportunités. C'est sûr que tu assistes à ça dans tous les clubs. Ils vont se vanter d'avoir voulu faire, c'est le meilleur truc du monde et tout ça, parce qu'ils ont eu l'opportunité, effectivement, peut-être le contact, il était pas cher, il doit pas être payé non plus super super cher, donc c'était intéressant, c'est un joueur de complément, c'était intéressant de l'avoir. Puis il faut fournir un peu entre guillemets, du biscuit aux supporters et tout. Si tu fais rien pendant le mois de janvier, on l'a vu avec les pires souvenirs, c'était le Paris Saint-Germain qui a pris des, quoi, moi, ce que je me souviens, parce que c'était un club que je supportais, qui a pris des joueurs incroyables au mois de janvier, qu'on a vu trois fois, et puis après plus jamais, parce que la pression était telle qu'il fallait qu'ils recrutent. Donc voilà, maintenant ils l'ont pris, je pense que c'est une opportunité. Maintenant, il est clair que sur les côtés, en tout cas sur le côté gauche notamment, s'il y a moins qu'il y place, ce qu'il fait quand même assez souvent, d'y placer Murillo à gauche, et puis sur les ailes devant, maintenant, il n'y a pas que la CAN pour moi. Hein. Je ne sais pas si les gens qui supportent l'OM sont contents de la première partie de saison de Ismaïl Assar, par exemple, même Unai, que moi j'apprécie, j'ai toujours apprécié beaucoup. Alors, mais ces joueurs-là, bah, ils peuvent se poser des questions. Maintenant, effectivement, on peut penser que c'est vrai que Gay, il est
à la CAN aussi.
Il est à la CAN, Gay. Mmh. Donc, ça aurait pu être encore pire pour l'OM. Hein. Il aurait pu avoir Kondogbia, Aubameyang, qui
manquerait. Et la République centrafricaine, justement, ne sont pas qualifiés, notamment.
Maintenant, le mercato de janvier, il a quand même pas forcé. Il est pas forcément facile à analyser, parce que c'est vraiment des opportunités, quoi. Je vois comme ça, c'est des opportunités, quoi.
Bah oui, naturellement. Hein. Naturellement.
J'aurais dit aussi que sûrement aussi c'était pour anticiper la non-venue de Matic aussi, parce qu'ils étaient sur Matic, mais ils ont vu le salaire et ils ont laissé tomber, quoi. Mm-hmm. Je pense qu'ils étaient un peu plus quand même sur lui, et peut-être c'est par défaut, après je sais pas si je suis.
Ouais, certainement que c'était le plan B.
Ouais,
il est parti au match, il est à Rennes, c'est ça?
Non,
il est à Rennes, ouais.
Normalement, il doit rester, quoi. Ouais. Julien Stéphan a dit qu'il voulait surtout pas qu'il parte. Mais si tout dépend, je viens de l'opportunité. Hein. Si on lui dit on donne 10 millions pour Matic, il partira. Hein.
Ouais. Encore une autre news pour clore le chapitre Foot France?
Non, Foot France, non, pas beaucoup. On peut dire un mot, mais on en parlera tout à l'heure longuement de Kylian Mbappé. Beaucoup de bruit au cours de tout ça. On peut juste dire que ce qui a été, je l'ai beaucoup entendu, ne serait-ce que sur les ondes tout à l'heure, en plus quand j'étais en voiture. Mais on peut dire que le mot d'ordre, c'est que Kylian Mbappé, de toute façon, ne se fera pas. Alors, tort, raison, j'en sais rien, ne sera pas guidé et imposé quoi que ce soit de date par qui que ce soit, et qu'il décidera de dire quand il a envie de le décider, et qu'il faut absolument pas croire, mais bon, ça a été démenti de toute façon déjà. Les gens qui écrivent que le Real Madrid a mis la pression pour une certaine date, dimanche, on apprenait que le soir qu'il avait dit qu'il avait signé au Real, puis deux heures avant qu'il allait aller à Liverpool, qu'il allait aller en Première Ligue. Moi, je pense que l'écart, il est plutôt en train de s'agrandir vis-à-vis du Real Madrid que de se rapprocher. Mais pas d'un départ de Paris, hein, d'aller au Real Madrid.
De toute façon, on en reparlera quelques instants, à 20h30 précisément, dans l'émission Au bout du foot. Au bout du foot, effectivement, qui aura pour sommaire aujourd'hui Gianluigi Buffon, qui souhaite que les cages soient plus grandes pour davantage de buts. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? On en parle dans Au bout du foot. Et également, le 30 secondes chrono de nos consultants. Chaque chroniqueur dévoilera son fait marquant foot en 30 secondes chrono. Tiens, Kylian Mbappé, tu l'évoquais, mon cher Stéphane. Contrat fini pour Kylian Mbappé. Doit-il rester ou partir du Paris Saint-Germain? On va également en parler. Et puis, le dossier Au bout du foot. Pensez-vous qu'un Boxing Day à la manière de la Première Ligue pourrait améliorer l'engouement, l'attractivité et le suspense dans la Ligue 1 française? On va également l'évoquer. Et puis, la rubrique « Quel choix pour quel résultat ?» Cristiano Ronaldo fait-il encore partie des meilleurs attaquants du monde? Les éléments de réponse dans Au bout du foot, ça va arriver dans quelques 5 minutes là sur mon Paris FM. Avant ça, je vais remercier mes amis Ryan. Merci Ryan.
Merci à toi.
Et puis à très 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 vite, tu viens quand tu veux nous voir. Pour justement cette CAN, on a beaucoup de matchs à couvrir ici. Hein. Il y a les avant-matchs, il y a les débriefings, tout ça. Chakenza, tu restes avec nous pour Au bout du foot. Chris, Merci beaucoup.
Avec une petite avec info quand même.
Oui, Stéphane.
Apparemment, c'est Rennes-OM en 16e de finale.
En 16e de finale pour le tirage au sort. Justement, on va évoquer le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France, notamment dans Au bout du foot. Amadou, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Et puis, on espère te revoir très, très, très vite. Ami Léo ainsi que Jason Lindor réalisaient Mon Paris Sport. On profite pour saluer notre ami Philippe Carnu qui sera ici même à ce micro dès lundi prochain. Nous, on enchaîne juste derrière dans Au bout du foot. Restez connectés. À tout de suite.